Mon invité aujourd'hui a un rapport avec cette musique. Tu la connais, cette musique ?
C'est de Forêt, hein ?
Non ? C'est de la musique d'Astérix le Gaulois.
Ah oui, mais écoute,
c'est pas par hasard que c'est mis là.
Oui, mais quand on lit un album, il n'y a pas la musique dessus.
Voilà. Et donc, Régis.
Et
Régis Najac, première fois que tu viens ?
Oui, je suis assez ému parce que je n'ai pas l'habitude de la télévision.
Bien accompagné, mais je ne citerai pas la dame qui l'accompagne.
Alors, bonjour Michel, donc voilà.
Bon, bonjour, avant que de parler, je vais te faire écouter quelque chose. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé le 2 novembre 2004 ?
Ah, déjà oui.
T'en sais rien ?
Je ne sais pas, peut-être je m'arrête.
Alors on va tout de suite écouter.
Voilà.
Et 1922, ça vous dit quoi ?
C'est 1922, c'est parti l'année où je suis né.
Ah, vous êtes né où ?
Ah ben, pas bien loin d'ici, à Rignac.
À Rignac, dans l'Aveyron, donc.
Dans l'Aveyron.
Ah, et d'une famille de qui ?
Ben, une famille de... Mon père était tailleur de pierre, voyez-vous.
Tailleur de pierre ?
Tailleur de pierre.
Eh ben.
C'est un genre... Ben,
ça tombe bien, parce qu'il y en a un autre qui est tailleur de pierre, hein, c'est Obélix. Vous avez entendu parler d'Obélix ?
Obélix, oui, oui.
Et ça lui, fait peut-être un rapport dont on parlera tout à l'heure.
Lui, il n'avait rien à voir avec les bornes kilométriques.
Ça, c'est sûr. Bon, alors, donc, vous avez, si j'ai bien compté, 82 ans.
Exactement.
Et en pleine forme.
Bientôt 83.
Bientôt 83, alors qu'à vos côtés, il y a Régis Najac, qui est bien plus jeune et qui paraît X fois plus vieux. Et ça vient de quoi, ça ?
Pratiquement liquide.
Ça vient de quoi, ça ?
Ah ben c'est qu'il paraît qu'à un certain âge, on rajeunit, on retombe en enfance. Alors, par conséquent...
J'ai pas atteint encore, moi.
Alors, vous êtes ensemble pour une raison bien précise, Régis.
Ah oui, puisque Papy Marty, alias Lucter, est branché sur Uxello du Nome, sur le village d'Astérix, où il habite depuis de nombreuses années.
Alors voilà, il y a une énorme polémique là, qui veut que Uxello du Nome, le dernier village irréductible gaulois, soit un peu de partout, mais il semblerait que ce soit vraiment Cap de Naclou, d'après les recherches.
Très très forte chance, oui.
Et tu te bases sur quoi, pour dire ça ?
Sur un texte latin qu'il faudrait mieux le demander à Papy, qui sait beaucoup plus.
Alors,
justement, le texte latin... Dirtius, qui était un compagnon de César et qui a suivi la guerre de Gaulle, qui a suivi César partout en Gaulle, nous parle, lui, de la topographie d'Uxello du Nome. Uxello du Nome, la topographie, il ne cite pas le nom de la rivière, c'est bien dommage, parce que le nom de la rivière nous aurait déjà réduit les recherches. Mais enfin, il nous donne assez de détails sur la topographie des lieux pour le...
Eh oui.
Voilà, alors ça te dit quelque chose ?
Mais je crois que c'était une fois où vous avez amené Papy Marty en ces lieux.
En compte, c'est le 2 novembre 2004.
Eh ouais, ça fait un paquet. Hein.
Ça va faire 14
c'était hier, ans. C'était hier soir. Papy qui nous a quittés, hélas, puis voilà.
Alors quel est le rapport avec ce qu'on vient d'écouter ?
Ben en fait, à l'époque, je faisais partie de l'association qui s'occupait d'Uxello du Nome à Cap de Nac. Depuis, je suis parti de Cap de Nac, je suis à Najac. Et puis, cette histoire est toujours aussi d'actualité, même si elle a 2000 ans et quelques. Et donc, je me suis ressorti toutes mes notes, le bouquin que j'ai. Je ne sais pas si j'avais fait, à l'époque où on a fait l'interview, je ne sais pas si j'avais sorti mon livre. Je ne me rappelle pas. Enfin, en attendant, il est sorti, il a été épuisé.
Oui, et puis, non, il n'était pas sorti encore.
C'était en 2004, pourtant.
Ah bien, alors, j'avais 2004, dit, c'est peut-être sortir, à cette occasion.
Bref. On en avait reparlé après. Et donc, je vais faire une conférence sur Uxello du Nome, à Najac. C'est organisé par l'association Horloge, c'est en dessous de la loge de Najac, qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie, c'est une halle qui s'appelle la loge. Et voilà, et c'est pour ça que je suis ici, pour te parler un peu de ce village d'Astérix.
Alors quand tu habitais à Cap de Nac, tu t'appelais Régis Cap de Nac, je suppose.
Voilà, je change, et puis je vais passer peut-être à Strasbourg l'année prochaine, et puis j'ai changé nom.
Strasbourg.
Ingmar von Strasbourg, je vais m'appeler.
Alors, fais-nous un petit résumé d'Uxello du Nome.
Alors,
Uxello du Nome, c'est Cap de Nac le Haut.
Voilà, alors c'est très 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 probablement. Uxellodunum, c'est le village d'Astérix, le vrai. Sur,
c'est-à-dire le dernier village qui a résisté à Jules César.
Qui a été pris,
dont
oui,
par Jules César. Dont il parle dans la guerre des Gaules.
Voilà.
Il avait même offert le bouquin sur la guerre
des Gaules. Tout à fait exact. Et dans cette guerre des Gaules, il y a le livre 8 qui a été écrit par Aulus Hirsius, dont parlait Papy tout à l'heure, il y a 14 ans. Et ce texte nous décrit un lieu. Et c'est assez précis, excepté, comme disait Papy, le nom de la rivière qu'on a passé. Sinon, ce serait trop facile. Alors, il y a pas mal de lieux qui ont prétendu être l'Uxellodunum de la guerre des Gaules, dont Najac, parce que Najac aussi a été... il y a même eu un bouquin qui est sorti avec une topographie assez... Et effectivement, par rapport à celui qui a été officialisé, qui est à côté de Veyrac, au Puy des Solutes, qui n'a strictement rien à voir avec le texte latin, que ça n'est pas possible... Et en fait, il y a eu Luzèche qui en a eu, qui a prétendu, Cahors aussi, Cap de Nac, Najac, un autre bled qui s'appelle Canteirac, qui est à côté de Caylus. Alors là, ça n'a rien à voir non plus, mais il y a eu une grosse étude dessus. Et paradoxalement, celui qui a fait l'objet d'une étude importante à l'époque de Napoléon, c'est Cap de Nac. Et c'est pas n'importe qui, puisque c'est Jean-François Champollion qui a mené les fouilles et qui a déduit que c'était Cap de Nac le haut. Donc c'est quand même pas un imbécile, le père Champollion.
Tout à fait. Ouais.
Bien qu'on ne l'ait pas connu.
Mais quand même, tu m'avais raconté à l'époque que Napoléon III a tout fait pour que ça soit plus dissolu, non ? Parce qu'il avait de la famille ou je sais pas quoi, des amis.
Oh, il y avait un haut dignitaire militaire. Qui s'appelait maréchal Canrobert, je crois, qui a mené les fouilles, parce que les fouilles ont été faites par Napoléon, qui voulait réécrire l'histoire de France. C'était très pratique, donc il a essayé de trouver Alésia, à Alise-Sainte-Reine, plus ça va, plus on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas, que c'est certainement pas Alise, mais très probablement à Chaux-de-Crotenay, dans le Jura. Et il a fait mener des fouilles à Puy-d'Issolu, parce que voilà, il voulait que ce soit là-bas. Et tout ce qui a été trouvé là-bas, ça correspond absolument pas au texte. Il y a eu forcément de l'histoire romaine et gauloise, mais certainement pas l'Uxellodunum.
On va faire une petite pause musicale. Donc aujourd'hui, on va écouter du jazz.
Yes.
Parce que tu n'as rien amené de gaulois, donc on va écouter du jazz.
Il y a le carnix gaulois, mais ça...
Il y a un point commun, parce qu'Astérix était petit.
Oui.
Et
laid.
Comment ? Merci. Non, mais je ne parle pas de toi, là.
Ah, bon.
Et Michel Petrucciani était petit aussi.
Ah, là, un génie.
Mais ce n'était pas un petit malentendu, lui. C'était un petit bien entendu. On écoute Michel Petrucciani. Thank you. Voilà, Michel Petrucciani.
Un génie.
De n'importe quoi, hein, au
piano. Ah ouais, lui, il savait faire, lui.
Il savait faire. Alors, j'ai une affiche sous les yeux. Uxello du Nôme, le dernier village gaulois pris par Jules César. Regard sur une escroquerie culturelle et historique. Vidéoconférence par Régis Najac.
Yes. Donc, c'est organisé par, le, par l'assaut Horloge. C'est une bande de jeunes, n'est-ce pas ? Vachement efficace, ils n'arrêtent pas, ils font des trucs tout le temps, tous les samedis, tous les dimanches, il y a des trucs là-bas, et, sauf l'été, parce que voilà. Et donc ils ont repris les activités, là, des concerts, un peu de tout, et donc cette vidéoconférence. C'est pour ça que ce sera un peu plus visuel, puisqu'il va y avoir des photos, des projections de tout un tas de... tous les vestiges, en fait, et tous les points qui sont intéressants à voir.
Tu t'es remis en contact avec le musée de Najac, non ? De Cablenac ?
Ben non.
Pas du tout.
Non.
Qu'est-ce qu'ils vont te dire quand tu vas faire ça ? Ben, parce qu'à l'époque, tu faisais partie du...
J'étais vice-président, oui. Mais bon, c'est, disons que c'est du passé.
Du passé, n'en parlons plus.
Voilà.
Et alors, ils doivent avoir un regard quand même sur ça,
non ? Ah ben,
qui les intéresse, je suppose.
Ben j'espère qu'ils ont continué, mais à l'époque ça s'appelait l'association pour Uxello du Nôme à Cablenac, et puis en fait je me suis tiré parce que la DRAC a mis son nez là-dedans, et que pour une fois que la DRAC devait venir, ça faisait 150 ans qu'on demandait aux autorités archéologiques de venir, la DRAC est venue, et a demandé que l'assaut ne s'occupe plus d'Uxello du Nôme, mais de tout un tas de choses intéressantes qu'il y a là-bas, hein, au point de vue médiéval, au point de vue historique, comme de la Clos, c'est extraordinaire, ça ne s'est jamais arrêté. Et moi, j'étais là pour Uxello du Nôme. Donc, à partir du moment
pourquoi
où ça s'est...
Pourquoi peu... D'abord, c'est quoi la DRAC ?
La DRAC, c'est la Direction Régionale de l'Archéologie. Non. On
recommence.
Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Affaires culturelles.
Et au sein de la DRAC, il y a le SRA, qui est le Service Régional de l'Archéologie. Et ce Service Régional de l'Archéologie... a décrété en 2001 que Uxello du Nôme était à Puy-d'Issolude. Voilà, parce que c'est comme ça, puis on ne discute pas, puis c'est comme ça. Mais ces gens-là ne sont jamais venus fouiller à Cablenac. C'est pour ça que je trouve ça infernal, cette histoire, parce que je ne vois pas pourquoi on va fouiller d'un côté et on impose cet Uxello du Nôme là où on a fouillé, et pas du tout aux endroits où on n'a pas fouillé. On dit que ce n'est pas là, c'est facile. Et alors que tous les éléments de l'enquête, entre guillemets, sont présents à Cap-de-Naclos, sur le terrain.
Et ben, les autres gens de là-bas n'ont pas gueulé ? Pourquoi ? Il
y a que toi qui... Justement, qui c'est à partir du moment où papy, qu'on a écouté tout à l'heure, est décédé, ben, j'ai quand même l'impression qu'il n'y avait plus l'agnac qu'il y avait avant, et puis je ne sais pas, enfin bon, passons.
Alors là, toi, tu vas refaire ta vision de ça ?
Ben, je vais présenter les travaux que j'ai faits pendant 6 ans là-bas, ou 7. Et puis, voilà, j'ai fait beaucoup de dessins, de plans, de machines, de photos, de tout un tas de trucs. Et il y a largement de quoi étayer une théorie. Alors, j'avais proposé à l'époque, puisque ça avait été médiatisé, entre guillemets, cette officialisation, ça a été médiatisé par un coup d'esbrouf du directeur du service régional de l'archéologie, le jour du passage à Toulouse de M. Goudineau, qui est un professeur qui est spécialiste des Gaulois. Et profitant de ce passage, le directeur du SRA a dit « ça y est, c'est officiel, j'ai trouvé Uxello du Nôme ». Et du coup, la presse s'est emparée de l'histoire et c'est devenu, entre guillemets, officiel, alors qu'il n'y a jamais eu de déclaration officielle. Mais donc, il fallait... continuer les fouilles à Puy-d'Issolude, il n'y avait plus de sous, il fallait un scoop, et ils ont trouvé ce scoop, et puis voilà.
Mais alors, donc du coup, si c'est officiel, Cablenac-Léau n'a plus le droit de s'appeler Uxello du Nôme.
Ben le droit, oui et non, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que c'est une escroquerie, hein. Tout comme Alésia, et tout comme d'autres lieux de l'histoire de France, qui sont complètement à côté de la plaque, pour des raisons politiques, touristiques... carriériste,
surtout. Puis Puy-d'Issolude, ça s'appelle aussi Uxello du Nôme ?
Mais personne ne s'appelle Uxello du Nôme, en fait.
Non, mais dans la guerre des Gaules.
Ah oui, oui. Mais Uxello du Nôme,
un village qui s'appelle Uxello.
Uxello du Nôme, ça veut dire forteresse élevée. Donc,
donc,
ici, on parle de l'Uxello du Nôme d'Hirsius, celui qui a décrit l'Uxellodunum, c'est-à-dire le dernier village gaulois. Mais des Uxellodunums, apparemment, il y en a eu plusieurs, puisque des forteresses élevées qui ont été prises par César, il a dû y en avoir deux ou trois, ou quatre. C'est pour ça que Najac a été supposé, parce que c'est vrai que ça, topographiquement, ça y ressemble. Bon, il y a des trucs qui ne sont pas tout à fait en concordance, mais celui qui est le plus en concordance, c'est Cap de Nac, et surtout, tous les éléments du texte ont été retrouvés sur le terrain.
Et qu'est-ce qui concorde alors ?
Ben tout, absolument tout. Il y a une quinzaine de points qui ont été mentionnés par Hirsius, et il faut les retrouver sur le terrain. En fait, il s'est passé la même chose à Alésia, où Napoléon a imposé son Alésia à Alise Sainte-Reine. Et puis il y a un gars qui s'appelle Berthier qui a dit la chose différente. Il a dit, ben, on a un texte, mais par contre là-bas, il est coté. Le texte latin, il y a encore des... C'était en pied, en pouce, en machin, mais voilà. Et donc il s'est dit, ben, je vais prendre un calque et je vais marquer sur le calque tout ce que me dit le texte. Alors il a fait un plan, en fait, d'Alésia, et il l'a promené sur une carte de France à l'échelle, et il est tombé sur un lieu qui était exactement correspondant. Alors ça a été une enquête intelligente, et ça s'est jamais passé pour Uxellodunum, parce qu'il suffit de faire ça, de le promener sur Pilly Solude, et on s'aperçoit que c'est totalement à côté de la plaque, quoi. Par exemple, ils disent que Uxellodunum est une ville. Le Puy des Solus, ça n'a jamais été une ville. C'est un gros plateau qui fait 80 hectares, où il n'y a pas de traces d'habitation. Enfin, là, en ce moment, il y a une ferme ou deux, mais ça n'a jamais été habité ni fortifié, etc. Il faut que ce soit situé près de l'Auvergne. Cap de Nac est beaucoup plus près de l'Auvergne que Puy des Solus, il me semble. Il faut que la place soit défendable par 2000 hommes. Alors, Cap de Nac, oui, Puy des Solus, c'est pas 2000 qu'il faudrait, c'est 20 000, quoi. C'est gigantesque, il fallait tout ça. Il fallait que ce soit fermé par des ouvrages. Je cite le texte. Fermé par des ouvrages, c'est-à-dire des creux, des bosses, des murs, des fossés, etc. Bon, là, il n'y a jamais eu rien de tout ça à Puy des Solus. Et pourtant, il aurait fallu. À Cap de Nac, il y a eu, et il y a des vestiges. Il fallait que ce soit imprenable autrement que par un siège. Ça veut dire que Puy des Solus, on peut très bien arriver sur le plateau par différents passages. Ça aurait été facile. D'ailleurs, je ne me rappelle plus quel colonel de l'armée avait fait une étude sur la prise de Puy des Solus et qui avait déduit que, d'un point de vue militaire, c'est très facile de le prendre et puis c'était absolument pas en correspondance avec le texte. Bref, à part ça, il faut que ce soit placé dans une boucle d'une seule vallée et d'une seule rivière. Donc, c'est facile à comprendre. Hein. Méandre, et on est au milieu. Puis dissolute, absolument pas. La Dordogne passe à 1 km de ça. Et en bas, il y a une toute petite rivière qui s'appelle la Tourmente, qui est... on peut la traverser à pied sec. Et donc, il faut que cette rivière soit indétournable. C'est dans le texte. Ça veut dire que peut-être que les Romains avaient pensé à la détourner. Donc le Lot à Cap de Nac le Haut, c'est pas possible de le détourner. La Tourmente à Puy des Solus, il n'y avait même pas besoin de la détourner. Et il fallait que cette rivière coule à la racine du mont, c'est-à-dire au pied des falaises du... Alors bon, ça, on peut l'interpréter un peu, parce que ça n'existe pas, à part à la mer et les falaises d'Étretat, où la mer est au pied. Mais en fait, il faut que ce soit... vraiment isolé par la rivière, en gros. Et que le site soit escarpé de toutes parts, puisque c'était un oppidum difficile à prendre, c'était bien ça. Effectivement, Puy des Solus est escarpé, mais pas de toutes parts. Il y a des endroits où il y a des passes, et c'est facile d'y monter. Ensuite, on doit trouver des camps romains autour d'Uxellodunum, et des camps romains plus élevés que la ville. Alors à Cap de Nac, c'est vrai, à Puy des Solus, pas du tout, puisque Puy des Solus est en dessous des alentours. Et faut quand même pas oublier que César avait déplacé sur place environ 30 000 légionnaires. 30 000 légionnaires pour prendre une place de... Allez... Il devait rester 2000 soldats. Je vais vous passer les détails parce que c'est un peu long. Il devait rester 2000 soldats dans la place qui n'étaient que des renégats, des repris de justice, des esclaves qui avaient été redonnés à la liberté, puisque le Astérix et le Obélix de l'époque, c'est-à-dire Lucterios et Drapès, les deux chefs qui étaient partis soulever la province pour mettre une pâtée à César, s'étaient retrouvés là-dedans et avaient été faits pour l'un prisonnier, Drapès, pour l'autre Lucterios est parti se réfugier en Auvergne. De là, les Auvergnats l'ont livré à César. Ça a toujours été des amis, n'est-ce pas ? Et puis, donc, il restait à peu près 2000 personnes dans la place qui étaient privées de leur chef. Et malgré ça, César s'est pointé là-bas avec 30 000 guerriers pour prendre cette place qui, théoriquement, aurait dû tomber toute seule. Alors, moi, j'ai une théorie un peu particulière là-dessus. C'est que je me dis que si César a déplacé tout ce monde et fait un travail aussi considérable pour prendre la place, puisqu'il l'a, il l'a pris par la ruse, c'est qu'il devait y avoir des sous.
On continue à en parler après. Là, on va écouter Pat Metheny. Voilà, c'était Pat Metheny.
Encore un bon.
Encore un bon. Hein. Donc, parle-nous du siège. Pas le siège.
Le siège. Alors, le Saint-Siège.
Parce que j'en ai un là qui tombe. Tu vois,
c'est pas... Le Saint-Siège est donc à Rome.
Non, non plus, pas celui-là.
Voilà, alors l'histoire de d'Uxellodunum et du village d'Astérix, il y a un détail qui est rigolo avec Astérix, c'est que César met des camps romains partout autour du village pour essayer de récupérer la potion magique. Et bien la potion magique, en fait, c'était assez vrai, parce que le village d'Uxellodunum possédait une potion magique qui s'appelait la flotte, tout simplement.
Et oui, c'est ça.
Et voilà. Et autour d'un siège, enfin d'un village qui était pourvu en eau, on était obligé de faire un siège, parce que les gens, ils avaient quand même assez à manger, c'est ce qui est marqué dans le texte. La place était bien fournie en nourriture et avait une fontaine abondante qui pouvait...
Voilà, voilà. Je voulais te poser la question, parce que je me souviens que Papy en avait parlé.
Voilà.
Ça...
C'est le nœud de l'énigme, en fait. Et cette source était très probablement utilisable de l'intérieur du village. Sinon, ce n'était pas la peine de faire un siège, il suffisait de l'empoisonner avant ou de la couper. Et alors, justement, pour la couper, le seul qui a, été, qui a eu le pif de savoir comment il fallait faire, c'était César. Parce que jusque-là, il y avait son légat, Caninus, qui était là et qui faisait le siège d'Uxello. Et César a dit non, mais je viens avec des renforts et on va s'occuper des Gaulois. Et pour choper cette source, il a fallu qu'il fasse un système invraisemblable de captage souterrain pour aller récupérer cette source. Et à Capdenac, tous les éléments décrits par le texte sont présents. Les galeries d'assèchement, etc., etc., etc. Et donc, pour faire le siège de d'Uxello, les Romains ont fait une grosse terrasse qui s'appelle un agger, sur lequel ils ont bâti une tour, une grosse tour de 18 mètres de 10 étages, qui faisait, l'agger faisait 18 mètres, pour pouvoir bombarder en fait la fontaine, pour que les Gaulois ne puissent plus s'y ravitailler. Mais ça ne suffisait pas, puisqu'ils s'y ravitaillaient depuis l'intérieur de la place.
La fontaine, elle était visible.
Alors la fontaine, la
comment
première fontaine...
Comment pouvait savoir qu'il y avait une fontaine?
Oui. Ah ben, puisqu'ils voyaient les Gaulois, le camp romain était au-dessus de la place. Hirsius disait qu'on pouvait encourager les combats de la voie. C'est-à-dire que ce n'était pas si loin que ça. Parce que autour de la fontaine, ils se sont quand même bagarrés un petit peu, hein. C'est pour ça qu'on a trouvé à Puy-Dissolu, paraît-il, des milliers de pointes de flèches autour d'une fontaine, ils ne savent pas où elle est, un agère qui déplace en permanence, une tour qui n'a jamais existé, et des galeries où on pouvait rentrer à cheval dedans. Donc ce n'était pas tout à fait ça. Les galeries de Capdenac, ça s'appelait des cuniculi. Ça passe fin, mais...
Ouais, ça passe fin, mais... Ça passe fin, tu vois que je n'ai pas dit de bêtises.
Non, mais non. Cuniculi, ça veut dire trou de lapin. Donc, un trou de lapin, c'est... On n'y rentre pas à cheval dedans.
Tu rajoutes un E, c'est grossier aussi. Hein, donc...
Oui. Oui. Non, mais je vais pas le... Voilà. Non. Je vais la marquer quand même, parce
qu'on
peut la ressortir un peu.
Sérieuse,
ça, on peut la ressortir un peu quelque part, celle-là. Donc voilà, ils ont creusé à partir de l'Agger, ou un peu au-dessus, des galeries couvertes, en fait, c'était plutôt des tranchées couvertes, qui se dirigeaient vers les veines qui alimentaient la fontaine. Mais ça, il fallait le savoir, parce qu'en fait, la fontaine jaillit à une altitude supérieure à ces galeries. Tout simplement parce que l'eau est en pression, et il n'y a que César qui avait pigé l'histoire. Et donc, quand les galeries sont arrivées au pied de la pique de la falaise, entre guillemets, ça a coupé les veines qui alimentaient la fontaine, et à partir de ce moment, les Gaulois se sont sentis abandonnés par les dieux, et ils se sont rendus. Et comme César était un brave type, il a dit, bon, puisque vous êtes rendus, je vais vous faire couper les mains. Voilà, c'est pour ça que Abrara Coursix, le chef, avec les mains coupées.
Alors, à l'époque, j'avais entendu un truc qui disait qu'au cimetière de Capdenac, on avait retrouvé un mec enterré avec son cheval, ou sur son cheval, et donc ça datait de l'époque romaine, et ils avaient dit à l'époque donc que c'était forcément quelqu'un d'important, parce que les seuls qui étaient enterrés avec le cheval, c'était des gens importants.
Alors, ce qui s'est passé là, c'était une ferme qu'ils ont agrandie, je crois que c'était en 1904 que ça s'est passé, sur un des camps romains présumés. Et quand ils ont agrandi cette ferme, ils ont trouvé effectivement un cavalier avec sa monture. Donc c'est typiquement une tombe à char. Et comme le premier chef gaulois, Drapès, a été capturé par les Romains, a été amené dans ce camp et a certainement été interrogé, Hirsus nous dit qu'il s'est laissé mourir de faim rapidement. Parce que, bon, peut-être ils l'ont aidé avec différentes manières. Mais comme les Romains avaient quand même un certain respect pour les chefs, Ils l'ont enterré avec sa monture. Alors logiquement, il était avec ses armes, etc., etc. Il n'en est rien resté, puisque tout a été dispatché. Et à l'époque, le curé du coin a dit qu'on devait mettre une sépulture chrétienne à ses restes humains, et ils ont amené les ossements à la fosse commune du cimetière de Capdenac, le haut. Et alors ça, ce serait vachement intéressant, je l'avais suggéré à l'époque, c'est qu'il faudrait peut-être aller regarder dans cette fosse commune et repérer un ou deux os de cheval. Parce que quand ils ont mis tout, ils ont dû mettre certainement un ou deux morceaux du cheval dedans. Et si on pouvait analyser cet ossement de cheval, on pourrait savoir au carbone 14 ou autre.
Le datage.
Datation. Datation.
Le datage, c'est pas mal.
La daterie aussi est bien.
Oui.
Ah, ça, c'est un truc qui serait vachement rigolo à faire.
Revenons à ce cunilingus. Ah non, c'est le culi, quoi.
C'est un trou. Un trou, ça veut dire qu'on l'appelle.
Cuni, comment?
Cuniculi. Donc voilà, et ça fait que ça a été retrouvé. Et j'ai encore un petit terrain de 500 mètres carrés sur les lieux du crime, n'est-ce pas? Qui contient encore deux sondages archéologiques qui ont été faits dans les années 50 et qui n'ont pas été rebouchés ou très mal. Et qui coupe en deux parties une de ces tranchées. Voilà. Et alors là-dedans, on avait trouvé, on l'avait remise propre, remis le trou propre. J'avais vu que ça passe faible, mais je reste très correct. Et donc, un jour, on a fait descendre le second du SRA de Toulouse dans ce trou, qui se situe donc sur le lieu des combats. Et on avait laissé en place tous les artefacts qui étaient dans la tranche, les morceaux de projectiles, les morceaux de briques, de tuiles, de machin. Et ce gars était bien emmerdé, parce que son chef avait dit que Canaclo, c'était pas du XLO, et là, l'a emmené dans un trou, il a fait visiter tous les vestiges en place et en activité. Parce qu'en fait, quand les veines de cette fontaine ont été coupées par les Romains, ça a créé, par la même occasion, une autre fontaine, qui s'appelle la fontaine de César, qui est encore en place actuellement, qui s'appelle comme ça. Et au-dessus, il y a le puits fontaine de Gaulois, qui est pratiquement asséché. C'est un système qui est hydrologique, hydrogéologique, qui est vachement intéressant à aller visiter.
À ce propos, justement, Papy Marty nous parlait de ça, parce que c'est lui qui nettoyer cette fontaine.
Alors, il a nettoyé cette fontaine, mais il a surtout nettoyé une autre qui est exceptionnelle, qui est unique au monde, qui est la fontaine des Anglais. Alors, elle s'appelle la fontaine des Anglais, elle est située de l'autre côté de Cabnac, c'est-à-dire au côté est, à pic. Il y a un sentier, des escaliers pas possibles pour y aller. Et en fait, c'était pas du tout la fontaine des Anglais, puisqu'elle a été, elle est romaine, attestée comme romaine, les Anglais sont arrivés un peu après. Juste 10 siècles après, c'est pas... Mais à l'époque, on l'appelait la fonte des Angles. Des Angles, c'est-à-dire avec le rapporteur et le compas.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup d'angles pour y descendre. Et du coup, les autorités machin chouette ont décrété que c'était la fontaine des Anglais.
Anglais, ouais.
Et pas du tout. Et en bas, c'est vraiment un truc à visiter. Et donc, c'était entièrement comblé. Et Papy et ses copains, à l'époque, dans les années 70, début des années 70...
Avec un seau, tout ça.
Voilà, se sont tous démerdés pour dégager cette fontaine, et c'est un monument qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel.
Et donc, ils avaient encore de l'eau, quand même.
Alors, celle-là, elle a été construite après le siège. Très certainement.
Ah, après le siège.
Ah ouais, très certainement, parce que les Romains se sont dit, bon, ben, on en a flingué une de l'autre côté, on a essayé de la rattraper, mais s'il y a un autre siège et que nous, on prend la place, autant qu'on se débrouille pour être autonome en eau comme il faut. Et donc, ils ont créé cette fontaine.
Ça se passe tout ça dans quelle année?
51 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a 5 minutes quand même, hein.
Tout ça est relaté dans la guerre des Gaules, le livre écrit par Jules César.
Voilà. Alors, la guerre des Gaules, on nous a souvent dit que c'était un bouquin qui avait été... qu'il faut prendre à la légère, que si, que ça, qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, etc., etc. Effectivement, parce que ça a été écrit par Jules César, pour Jules César. C'est-à-dire, c'était un bouquin de propagande, c'est la pub de l'époque, quoi. Alors, oui et non, les choses qui sont invraisemblables, bon, mais on ne les compte pas. Mais l'histoire du Xélodunum est beaucoup plus simple, parce que ça a été écrit par Hirsius un an après la mort de César. Donc il a fini la guerre des Gaules avec ça. Mais ce qu'il décrit, c'est Cabdenac. C'est quand même curieux. Même si c'est invraisemblable, même si, il y a un texte qui colle parfaitement avec le lieu.
Et là, c'est pas possible de réhabiliter cette histoire, hein.
Mais le problème en France, c'est que l'archéologie, c'est une autorité. L'autorité archéologique. Les types imposent et les autres la ferment et apprennent ce que ces gens-là ont imposé. Et c'est un gros problème parce que si ce n'est pas Uxellodunum Cabdenac, pourquoi pas? Après tout, ça se peut. On n'est pas malade au point d'imposer ça. Mais qu'on ne dise pas que c'est ailleurs. On suppose, il est possible que ce soit ailleurs, il est possible que si, que ça. Mais à ce moment-là, on fait les mêmes fouilles d'un côté et de l'autre. Parce que là, on a un texte qui est un témoignage précis. Il est applicable à Cabdenac et pas ailleurs. Par contre, ailleurs, ils ont imposé le texte, ils ont bidouillé le terrain, ils ont bidouillé le texte. Chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas avec le texte, ils le changent sur le terrain pour le faire coller au terrain. Ça ne va pas du tout, quoi. N'importe quel spécialiste qui va à Puy-Dissolude, d'ailleurs, le dernier rapport de fouille de Puy-Dissolude est absolument invraisemblable, puisqu'il remet en question tout. Tout ce qui se sont basés qui a donné lieu à l'officialisation, la première et même celle d'après. La fontaine à tel endroit, ah ben non, finalement, elle n'était pas connue des Gaulois. Ah bon, les galeries, oui, mais les galeries, par contre, on s'est aperçu qu'elles faisaient des angles, elles tournaient d'un côté, de l'autre, en s'apportant. C'est pas ça. La tour, ah ben la tour, on ne l'a pas trouvée. La gerre, on ne sait pas. 100 000 mètres cubes qui ont disparu complètement. On ne sait pas. La Dordogne, 1 km 2, oui. Mais la topographie, à l'époque, peut-être que géologiquement, la Dordogne passait beaucoup plus près. Ben voyons, hein. Enfin, c'est une foule d'invraisemblances là-bas, alors qu'il s'est passé un truc important à Puy-Dissolude, et à chaque fois qu'ils veulent y imposer Uxellodunum, ça s'éloigne de la vérité. Parce qu'effectivement, ils ont trouvé, la seule chose qu'ils ont trouvé d'important là-bas, ce sont des quantités hallucinantes de pointes de flèches. Des pointes de flèches gauloises, qui sont mélangées à des pointes de flèches romaines, qui sont mélangées à des projectiles gaulois, autour de la présumée fontaine. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé là.
Il y a eu un combat.
Il y a eu quelque chose. Mais c'est même pas sûr qu'il y ait eu un combat. Il y a peut-être eu une... Enfin, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est qu'après le siège d'Uxellodunum, César a envoyé deux légions pour surveiller le Limousin. Là, ça correspond tout à fait. Alors on s'imagine deux légions, ça fait à peu près 10 000 Romains, 10 000 soldats qui sont dans un coin tranquillou, on est en période de paix, il n'y a plus de guerre du tout. Et ils font quoi? Ben, les mecs, ils s'emmerdent, ils continuent à travailler ce qu'ils peuvent, ils utilisent les armes pour je ne sais pas. Voilà. Alors là, ça correspondrait, parce qu'effectivement, l'endroit se prête à ça. Mais pas un combat, puisque là, on se serait retrouvé avec une armée gauloise et une armée romaine qui se seraient foutues sur la figure dans un petit espace de 500 mètres carrés, c'était invraisemblable. Absolument invraisemblable. Et ça ne tient pas la route du tout, quoi.
Est-ce que tu vas rééditer ton bouquin pour la conférence?
Je ne pense pas, parce que ça fait cher. Puis ça intéresserait plus grand monde, je pense.
Ça dépend.
J'ai remarqué par contre que sur Internet, mon bouquin qui est épuisé, que je vendais une vingtaine d'euros, se retrouve en ce moment chez Abbe Books, ou je ne sais plus quoi, là, ou Rare Books et compagnie, à 70 euros. Mais j'aurais dû spéculer sur mon bouquin.
Mais là, tu n'aurais pas tout vendu.
Eh bien non.
Bon, allez, on va écouter Richard Galliano. C'est pas mal non plus. Hein?
Ah, il va bien aussi. Bien.
Allez, on écoute.
Cordéoniste fou.
Piazzolla, Galliano,
français. L'Astor Piazzolla, ah, de chez nous.
Tout à fait. Alors, le vendredi 17 novembre 2017, salle de l'Or Loge en Ajac à 20h30, organisée par l'association Horloge, 12270 Najac, or.loge.asso@gmail.com.
Yes.
Tout est dit là quand même.
Ouais, ouais.
Alors tu vas faire une conférence avec.
Avec
film, vidéo.
Vidéo. Voilà, avec vidéo, avec toutes les images de que j'ai récupérées.
Ton livre.
De mon livre aussi. Et puis de. Par exemple, une vue ULM que j'avais faite à l'époque, sur laquelle j'ai redessiné les vestiges existants et visibles. Enfin, et ceux qui sont invisibles, parce que les remparts, ça fait un moment qu'ils les ont destroyés.
Alors, tu m'as dit qu'ils ont enlevé la pancarte d'Uxello du Nom.
Ben oui, il me semble qu'elle n'y est plus. Il y en avait deux. Il y en avait une en bas de Figeac. Mmh. Quand on remonte vers Cap d'Anac, direction Cap d'Anac. Mmh.
Hein, une à sortie de Cap d'Anac à gauche.
Je ne sais plus, mais je me rappelle qu'il y en avait deux. Celle-là, je l'avais photographiée, je l'ai encore sur mon bouquet, là. Mais je ne me rappelle plus exactement. En bas du café de chez la mère Jean, sous le pont.
Oui.
Et apparemment, ça a été retiré.
Et donc, je te disais, alors, est-ce qu'il y a possibilité de réhabiliter, de se réadresser à la DRAC en disant que...
Mais c'est-à-dire que la DRAC...
Parce que Champollion, quand même, avait assuré que c'était là.
Champollion avait assuré que c'était là. La commission Sor, Ventache et Marty l'a fait, puisque j'ai sous les yeux un bouquin qui s'appelle Archaeologia, qui était quand même un bouquin archi connu d'archéologie en France. Alors, j'ai pas trop la date de quand c'est que ça a été fait-il, mais. Non. Où il y a tout un pâté de pages sur Cap de Naclour et sur les fouilles qui ont été faites dans les années 70.
Donc il y a eu des fouilles.
Des fouilles, mais ça a été fait par des archéologues amateurs. C'est-à-dire que...
C'est pas officiel, quoi.
À l'époque, les amateurs, c'était des archéologues. Aujourd'hui, les archéologues sont des fonctionnaires. En fait, il y a plus de gens qui courent leur carrière dans l'archéologie que ceux qui courent l'histoire ou l'archéologie elle-même. Et à force d'avoir travaillé là-dessus, je me suis fait ami avec certains archéologues, à la retraite ou pas à la retraite, dont certains ont carrément renié leur hiérarchie. Parce que ces gens-là ne cherchent pas la vérité historique. Historique, t'as vu, le X, c'est parti tout seul.
Historique,
parti tout seul. Mais ils cherchent leur petite carrière. C'est pas normal que quelqu'un qui est à la tête d'un comité régional d'archéologie ne se penche pas sur un truc aussi énorme que ça. Un patelin qui prétend être le village d'Astérix, mais c'est une manne extraordinaire.
Ah oui, c'est pour ça aussi qu'il est...
Eh bien oui, mais bon...
Donc c'est intéressant financièrement, je veux dire.
Eh bien ouais, mais...
L'histoire passe à côté, quoi.
Eh oui, mais en tant qu'affaire, autant le déclarer à un endroit qui est raisonnable, pas dans un endroit où rien correspond. La Tour Eiffel, elle est à Paris, hein, c'est sûr. Mais ces types-là, d'ici 300 ans, ils vont te dire...
C'est pas encore.
Ouais, ils vont te dire que c'est le pont transbordeur de Marseille, un jour. Tout ça parce qu'ils ont trouvé un boulot.
Partout où tu vas, en fait, tu crées des polémiques. Quoi. Le dernier truc, c'est quand vous avez trouvé dans le champ de pierre, là-bas.
Ah oui, oui.
C'est encore un problème. Hein.
Bah, là, moi, j'y étais pour rien. Effectivement, je suis à la base des rallyes de détection de métaux qu'il y a à Najac, parce que je suis ami avec un pote qui détecte à Toulouse et qui a une boîte de détection, et on était parti pour faire ça. Ce rallye, ça a bien marché, il n'y a pas de problème, jusqu'au jour où on est tombé en plein rallye sur une tombe romaine à incinération. Bon. Et bien, d'emblée, c'est là, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure, d'emblée, l'autorité archéologique a dit qu'ils allaient porter plainte. Ils ne se sont pas dit « Ah, tiens, ils ont trouvé un truc intéressant, allons voir ce que c'est ». Non, d'emblée, tribunal. Et la France, c'est ça. À partir de maintenant, à partir du 1er janvier 2017, On n'a plus le droit de trouver quoi que ce soit. Et si on trouve, ça appartient intégralement à l'État. Jusqu'à l'année dernière, c'était partagé entre le propriétaire du terrain et le découvreur.
Ah bon, ça a changé ça.
D'accord. Et là, ça a changé. Et donc, les vestiges archéologiques ou les trésors et compagnie, il n'y en a plus aucun qui vont être trouvés. Puisque les types, eh bien, ils vont se dire...
Ils vont les garder.
S'ils risquent des emmerdements, eh bien, autant le faire au fond. Hein. Le trésor de monnaie de Cap d'Anaclo qui a été trouvé au 19e ou début 20e siècle, qui était composé de 3 et quelques mille pièces en argent gauloise, magnifique, dont une au nom de Lucterios d'ailleurs, a été fondue pour faire des couverts en argent.
Ah ben.
Et voilà.
Super.
Et il paraît qu'il y a 5 ou 6 monnaies qui ont été sauvées et qui sont au Louvre. J'ai réussi à avoir des copies et à faire des photos. Mais bon, maintenant ça va être pareil. Si quelqu'un trouve des monnaies en argent, eh bien, au lieu de les déclarer et puis que tout le monde en profite, eh bien, le mec il va le vendre au premier cash-converter revenu.
Qu'est devenu ce terrain que tu as donc à Cap d'Anac ?
Eh bien, il est toujours là-bas, puis voilà, il ne sert à rien.
Et donc tu ne fais plus de fouilles là ?
Mais on ne peut pas, on n'a pas le droit de faire de fouilles.
Ah ben c'est chez toi quand même.
Ah mais même, chez toi, tu n'as pas le droit de... Et comme tout Cap d'Anaclo a été classé, et malheureusement ou heureusement, j'ai fait partie de la commission qui l'a fait classer, tout Cap d'Anaclo est classé en zone archéologique. C'est-à-dire que si tu veux planter un arbre, si tu fais un trou de 30 cm de profondeur, il faut une autorisation préfectorale.
Ce terrain, alors qu'il t'appartient, si tu veux le vendre, t'as pas le droit ?
Si, je peux le vendre.
Mais le mec pourra rien faire. Hein.
Non ? Si, il peut faire le jardin, il peut faire tout dedans, mais si vraiment l'administration veut faire des emmerdements à Cap d'Anaclo, plus personne n'a le droit de faire un trou. Enfin, c'est pas spécial à Cap d'Anaclo, hein. C'est spécial à tous les endroits qui sont, entre guillemets, archéologiques. Ou classés.
Bon, eh bien, écoute, on est arrivé au bout de cette émission.
Voilà.
C'était impromptu. Donc, vidéoconférence par Régis Najac, le vendredi 17 novembre 2017, salle de l'horloge à Najac, à 20h30, entrée libre.
Voilà, on va faire comme ça.
Eh bien, merci encore d'être venu.
Et merci à toi de m'avoir reçu.
Bien sûr. Un grand merci à Johan, notre technicien d'aujourd'hui, qui est toujours aussi barbu, comme toi d'ailleurs.
Mais à part que lui, il l'a noir.
Ah, il l'a noir, mais de côté.
Oui.
On n'a pas glissé vraiment.
Non, je trouve que ça a été bien propre aujourd'hui, cette Super. Émission. On vieillit, mon pauvre Michel, je crois.
Mais on n'en pensait pas, moi, rassure-toi. Eh bien voilà, on se quitte en écoutant Michel Legrand. Aujourd'hui, c'était du jazz. Ciao, bonne semaine.
Bye bye, tout le monde. Thank you.